Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre émission consacrée à notre vie quotidienne, que ce soit du côté perso ou professionnel. Ici, on aborde tous les sujets sans tabou, mais surtout, on vous donne nos meilleurs conseils et nos bons plans. Alors ce matin, Mélanie, par quoi on attaque ?
Eh bien Julia, aujourd'hui, on va démarrer par cette question. La méditation, c'est très à la mode, mais à quoi bon ? Eh bien oui, à quoi ça sert concrètement dans la vie ? En quoi méditer nous fait précisément du bien ? On va détailler tout ça ce matin et vous verrez que la méditation, c'est excellent pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Ce serait scientifiquement prouvé, et c'est pas moi qui le dis, c'est notre invité. Nous recevrons le professeur Steven Lorez. C'est un neurologue mondialement connu qui mène depuis plus de 20 ans des recherches sur les états de conscience.
Et puis Mélanie, à 11h35, il y aura comme chaque matin notre dossier santé-bien-être du jour. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet sensible, un sujet douloureux parfois pour les jeunes parents, le sommeil de leurs enfants. On les aime, mais quand ils dorment, eh bien on les aime encore plus, nos enfants. Alors on parlera des problèmes au moment du coucher, des bonnes ou des mauvaises habitudes à leur donner pour dormir paisiblement. On va faire le point avec le docteur Arnaud Fersdorf. Il est pédiatre réanimateur à Strasbourg.
Ensuite, Julia, à midi, ce sera notre séquence tendance avec notre bande de chroniqueurs, toujours à l'affût de ces nouveautés, de ces bons plans qui changent la donne, qui nous facilitent la vie. Il y aura d'abord une petite nouvelle, la coach sportive Anouk Garnier. Aujourd'hui, elle nous propose un petit programme bien vitaminé avec tous ses meilleurs conseils pour retrouver de l'énergie malgré le marasme ambiant. Et puis, on retrouvera aussi Sophie Braffman, notre spécialiste mode, qui va nous faire un tour d'horizon ce midi des tendances qui se profilent du côté des vêtements pour 2022. Elle va nous rhabiller pour l'année, vous verrez.
Et enfin Mélanie, on va finir ce tour de table des tendances avec le journaliste Édouard Dutour. Aujourd'hui, il a décidé de nous parler du retour du couple et il nous parlera de certains duos d'amoureux célèbres qui vont nous inspirer en 2022. Peut-être un peu de potin people, donc à la fin de l'émission.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Et donc ce jeudi, on vous propose de démarrer l'émission avec cette question. Méditer, c'est très à la mode, mais à quoi bon ?
Non mais c'est vrai Mélanie que la méditation et ses bienfaits dans notre vie quotidienne, on en parle de plus en plus. Mais ce matin, on a eu envie de comprendre plus précisément ce que cette pratique génère en nous. Et même concrètement, ce qui se passe dans notre cerveau lorsque l'on médite. C'est vraiment intéressant de creuser un peu de ce côté-là. Vous allez l'entendre dans quelques instants avec notre invité, un éminent neurologue. Mais avant cela, on va demander son avis à notre éminent humoriste. Que pense-t-il de la méditation et surtout les Français qu'il a interrogés sur ce sujet ? Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde. Alors déjà, à titre personnel, je ne suis pas forcément adepte de la méditation. Pas
je
parce
m'en doutais,
que je n'aime
je
pas.
Je ne sais pas pourquoi.
Je suis ce qu'on appelle un hyperactif et dès que j'essaye de méditer, je m'endors. Donc voilà, il n'y a pas de... Peut-être un secret pour moi dans quelques minutes. Et on parle beaucoup de méditation. J'ai l'impression qu'on met tout et n'importe quoi. Alors c'est quoi la méditation ? J'ai posé la question dans la rue.
Ce serait savoir apaiser son cerveau par la respiration. Parce que la respiration, ça passe partout. Ça passe pour le stress, ça passe pour les peurs, ça passe pour tout. Et la méditation, ça permet d'accepter un moment de calme dans lequel on peut se recentrer sur nous-mêmes et un peu faire une pause dans le monde.
La concentration, faut se poser, reposer à la vie, repenser à... se remettre en question et voilà.
Repenser, se remettre en question, prendre le temps, respirer. Je me dis, on n'est pas trop loin
ouais,
finalement.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas
si perché que ça. Et puis après, j'ai croisé cette personne.
Il faut méditer pour enlever les mauvais esprits.
C'est le cerveau qui est plus vraiment là, quoi. C'est en haut.
Et après, c'est un film d'horreur, la méditation.
Donc on retire
c'est
son...
C'est des ados, là, non, je pense.
C'était ouais, des ados, effectivement. Alors, j'aurais demandé, finalement, donc d'accord, la méditation, j'ai compris le concept. Maintenant, concrètement, comment ça se passe ? Imaginons que là, on médite. On commence par quoi ?
Alors, tout d'abord, inspirer, expirer, croiser les jambes, parce qu'il faut être une position spéciale, je pense. Et après il faut se taire, il faut penser.
Alors se taire, penser, ça on sait le faire. Après il y a tout un exercice de respiration, comme vous le faisiez remarquer avec des ados. Je leur ai demandé qui l'avait déjà fait, est-ce que elles répondaient juste à ma question ou si elles avaient déjà essayé vraiment de méditer sérieusement.
Avec une prof de français, et ben on a fait la méditation, elle nous a fait respirer et tout, elle nous a expliqué qu'il fallait se calmer, se détendre et prendre sur soi et tout ça, se concentrer. Pour bien commencer le cours à chaque fois. Et après, on a commencé le cours et on était déconcentrés.
Le stress, il est reparti, voilà. Ça a été bien 5 minutes, après on est bien et après ça revient. Toujours comme ça.
Une dictée, quoi, hein, pourquoi pas.
Ça peut servir, mais apparemment pour les ados, ça marche 5 minutes. Je me suis dit, bon, soyons sérieux, je vais aller voir des personnes un petit peu plus âgées qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience en termes de méditation.
méditation transcendantale, c'était les années 70, ça, non? Ah oui.
Alors, c'était quoi?
On faisait... il y avait plein de méthodes.
Donc, qu'est-ce qui se cache, madame, derrière ces méthodes? Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement?
Ben, on fumait aussi un petit peu, mais bref.
Bref, on ne rentre pas là-dedans. Mais je vais quand même demander, mais il y avait un point commun, une différence entre la méditation et, on va dire, ces techniques des années 60.
Alternative.
La méditation, ça demande quand même intellectuellement de prendre conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, dans quel état on est, etc. Donc après, avec des substances, je sais pas si on a tellement conscience de ce qu'on fait.
Je ne veux rien savoir, donc voilà, arrêtez de fumer et méditez, c'est le conseil que je peux vous donner. Et pour bien méditer, que l'émission commence.
Merci Clément Lanoux pour ce reportage de terrain qui nous permet déjà de bien saisir ce que les gens finalement, et surtout les gens savent, et puis les gens, ils ont pas mal de théories fumeuses aussi qu'on va essayer peut-être de déconstruire, et il y a encore pas mal de travail, et justement pour cela on va accueillir notre invité. Bonjour professeur Steven Lorez.
Bonjour.
Vous êtes neurologue et l'auteur du livre Méditer avec Steven Lorez, paru chez Odile Jacob. Alors Steven Lorez, ça fait combien de temps vous que vous pratiquez vous-même la méditation?
Ça a commencé avec une crise personnelle. Là, on est 2012. Je me retrouve tout seul avec 3 jeunes enfants et ça tourne en boucle. Là, ça, j'arrive plus à dormir. Je me tracasse pour ce qui va arriver. Je fume, je bois, je prends plein de médicaments et c'était pas le papa inspirant que je voulais être. J'ai commencé à faire du yoga, mais puis il y a une rencontre, ici à Paris, 2013, Mathieu Ricard, la rockstar du bouddhisme, qui est venu parler à un TEDx sur son domaine d'expertise, la méditation. Et moi, je venais parler du cerveau, de la conscience, et très vite, on est devenus amis. Mmh. Et il m'a invité pour faire une retraite. Et là, vraiment, j'ai vu comment ça m'a fait du bien. Et puis je l'ai invité comme cobaye et comme scientifique. On a regardé qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Ouais, quand
on en parlera tout à l'heure. Vous avez regardé de près le cerveau de Mathieu Ricard.
De très très près.
On a très envie de savoir ce qu'il y a dedans. Hein.
Bah oui, déjà j'aimerais savoir, avant de savoir ce qu'il y a dans son cerveau, ce que fait la méditation dans nos cerveaux à nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors tout d'abord, on vient de discuter, Clément, ton enquête là, c'est quoi la méditation?
C'est quoi?
Eh bien, c'est méditer. C'est une gymnastique mentale. C'est des exercices, et il y en a plusieurs. Les drogues, là, c'est pas nécessaire. Mais il y a différentes manières de le faire. Et donc, dans le livre, je propose une série d'exercices. Moi, je suis un peu hyperactif aussi.
Donc, c'est pas incompatible, hein.
Un peu. Ben non, justement. Hein, si on me dit, moi, je peux pas le faire, je peux pas rester tranquille, ou peut-être justement, on en a peut-être encore plus besoin. Et si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc, c'est une invitation.
Bon, Clément, là, vous êtes invité, je crois.
C'est noté. Hein, je prends l'invitation.
On va détailler ça juste après. Mais les effets de la méditation, ils vont bien au-delà de vraiment juste se déstresser, se faire du bien, enlever un peu d'anxiété. Je crois qu'il y a vraiment, c'est une discipline qui agit à la fois sur le corps et l'esprit. Oui. Et c'est vraiment prouvé scientifiquement.
Oui. Hein. Donc, justement, votre question, qu'est-ce qu'on a vu dans le cerveau? Eh bien, ça change le cerveau. Sa structure. On a mesuré la matière grise, ces milliards de cellules, de neurones, mais aussi les connexions, la matière blanche, et puis son fonctionnement. On a commencé avec des experts, des athlètes de l'esprit comme Mathieu Ricard, parce que c'est facile. Lui, il a fait 60 000 heures, et donc on voit. Mais Mélanie, Julia, si on le fait, on voit après 8 semaines déjà que ça change là-haut.
Déjà là-haut, ça, donc, dans le cerveau, hein,
voilà,
les neurones, tout ça.
Voilà, voilà. Le cerveau, il est ce qu'on appelle plastique. Il change en permanence. Et donc, en neurosciences, ça fait 25 ans qu'on l'étudie avec l'équipe. On voit beaucoup de cerveaux blessés. On a fait beaucoup d'études sur le coma. Et donc maintenant, on a réorienté, il y a pas mal de projets sur comment la méditation, ces différentes techniques, peuvent nous faire du bien et aussi peuvent être traduites vers la clinique.
Très bien. Professeur Lorez, vous restez avec nous. On va continuer à détailler avec vous les effets de la méditation sur notre corps et notre esprit. Ce sera passionnant. Depuis plus de 20 ans, notre invité étudie les états de conscience et il a même étudié, vous l'avez compris, le cerveau de Mathieu Ricard. Il nous expliquera donc comment la méditation stimule le fonctionnement cérébral et modifie de manière positive. Mais vous verrez, pas besoin d'être moine bouddhiste pour vivre ces changements. changements positifs grâce à la méditation. Vous êtes sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Allez, restez zen, soyons zen. Du sang froid dans les veines, soyons zen.
Ah, chantez bien, Mélanie. C'est beau, Zazie, soyons zen, c'est ce qu'on essaie de faire ce matin. Vous êtes bien de retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Et ce matin, on se pose cette question. La méditation, c'est très à la mode, mais à quoi ça sert réellement? Quels sont ses effets concrets et démontrés sur nous? On vous explique tout avec un expert mondialement reconnu sur le sujet, c'est vous, professeur Steven Lorez. Je rappelle que vous êtes neurologue et l'auteur du livre « Méditer avec Steven Lorez » chez Odile Jacob, qui sort aujourd'hui même, je crois. Professeur Lorez, vous êtes également directeur de recherche au Fonds National de la Recherche Scientifique en Belgique. Mais déjà, moi, je me demande quelque chose de très pratique. Comment vous trouvez le temps de méditer avec votre emploi du temps hyper chargé?
Eh bien, justement, comme Marie, papa de 5 enfants, avec le job à l'UNIF, à l'hôpital, période Covid, on en a besoin, je pense, chacun de nous, de prendre une pause. Et on fait ce qu'on peut. Je pense que le message du livre, là, c'est vraiment ne mettez pas la barre trop haute. Ce n'est pas une compétition, la méditation. C'est justement lâcher prise. Et en fonction de votre besoin, vous pouvez le faire n'importe où. Ici, là, dans une chaise,
on peut juste là.
Au métro.
Ouais. On peut le faire n'importe où. On ne va pas mettre la barre trop haute, mais vous allez peut-être nous faire faire
vous
un petit exercice. On est prête.
Bah oui.
Allez, on y va. On en a besoin.
Avec tout le monde qui nous écoute, je vous invite à vous installer confortablement, à mettre les deux pieds bien ancrés par terre. On peut poser les mains sur nos cuisses, fermer les yeux et je vous invite à respirer ensemble et on va garder notre attention vers notre ancre de la respiration. Il y a des pensées qui vont peut-être venir, on va le constater et ramener notre attention vers une chose, la respiration. On inspire par le nez. Très bien, on expire. Vous êtes superbe. On inspire. Expirez calmement. Gardez l'attention sur une chose. Voilà. Ouvrez les yeux, reconnectez avec ici et maintenant.
On est là, on est là.
Ça a l'air tout simple. Mais si vous le faites, là, votre fréquence cardiaque, elle va diminuer, la pression artérielle, les hormones de stress, le cortisol, la noradrénaline, ça nous fait du bien.
Mais ça, par exemple, l'exercice qu'on vient de faire qui nous a pris une minute, même pas?
Même pas.
Est-ce que ça suffit une fois par jour? Enfin, c'est quoi la...
Alors, à nouveau, on fait ce qu'on peut. Chaque minute, c'est déjà ça. Je ne vais pas vous imposer tous les matins, je ne sais pas chez vous là, mais c'est le chaos.
Le matin, hein. Ce n'est pas le meilleur moment, hein. c'est agité.
On est censé trouver 20 minutes, mais on n'a pas la vie de Mathieu Ricard. Là. Donc, mon épouse, elle dit, ben, il n'a que ça à faire. Hein. C'est facile, faites-le. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a plein de choses, des messages. Et donc, faites ce que vous pouvez. Le défi pour moi, c'est la première respiration ou juste décider maintenant je vais le faire. Mais ça peut être dans le métro, personne doit le voir.
Bon, vous êtes connu vraiment pour avoir mené des études très poussées, hein, sur les effets de la méditation sur le cerveau. Vous êtes neurologue, vous avez étudié notamment, on l'a dit plusieurs fois, le cerveau du moine bouddhiste Mathieu Ricard. D'où vous est venue l'idée de mesurer scientifiquement les effets de la méditation sur le cerveau et qu'est-ce que vous avez demandé concrètement à Mathieu Ricard? Vous lui avez dit, allez, tu médites et je te mets dans ma machine, je sais pas, IRM, scanner, et qu'est-ce que vous avez vu?
Alors, ce qui est formidable avec lui, c'est qu'il a cette ouverture d'esprit. C'est pas évident pour lui de venir dans un labo. Il l'a fait, on n'était pas les premiers. Il aide vraiment les neuroscientifiques à avancer, à discuter ensemble sur les protocoles de recherche. Et il était aussi co-auteur. Il faut savoir qu'il est docteur lui-même, ici à l'Institut Pasteur, en biologie moléculaire. Et donc, ça nous permet de prendre l'extrême. Il n'y a pas que lui, il y a ces personnes qui ont fait beaucoup de méditation, qui permettent de voir l'effet au niveau de la structure, le fonctionnement du cerveau et le contrôle qu'il a sur ses pensées, mais aussi sur les émotions. L'exercice qu'on vient de faire, ben, ça permet d'observer la moulinette là-haut qui parfois tourne en boucle, nous empêche de trouver le sommeil. Mais aussi nos émotions. On vit une période quand même, c'est un défi. Hein. On a une anxiété peut-être pour ce qui va arriver. Et on peut faire la même chose. Mais comment est-ce que je me sens là vraiment? Et si j'arrive à dire, ben, là j'ai peur, ou là je ressens une colère. Du coup, je le suis déjà un peu moins, je peux prendre la distance.
Vous voulez dire reconnaître l'émotion, déjà c'est la première chose à faire, et après on fait cet exercice, pourquoi pas. Vous parliez des problèmes de sommeil, on va en parler aussi avec notre invité après pour nos enfants. Quand même, si on a des problèmes de sommeil, ce que vous nous avez appris à faire, c'est mieux de le faire avant de s'endormir, non?
Alors vraiment, c'est difficile de proposer une technique taille unique. C'est pour ça, dans le livre, il y a vraiment plein d'exercices. Il y en a qui sont un peu ludiques, hein, il ne faut pas se prendre trop au sérieux, on s'amuse et on essaye. Puis il y a des choses qui vont vous faire du bien et puis il y a peut-être des trucs qui ne sont pas pour vous. Mm-hmm. C'est un peu comme le sport. Probablement, on ne bouge pas assez là, mais on ne va pas obliger tout le monde à aller courir. Peut-être que vous préférez aller nager, faire, du tennis. Et donc ici, en fonction de votre besoin, essayez. En fait, vous n'avez besoin de rien, même pas du livre. Là, faut pas le dire à Jacob.
il faut
pas le lire, il faut le faire. Ouais. Et donc, c'est ça l'invitation. Et vous allez sentir vous-même l'effet que ça a sur vous.
Moi, je suis très intéressée par la science. Hein. Nos auditeurs le savent. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé dans le cerveau de Mathieu Ricard qu'il n'y a pas dans le mien, puisque je ne médite pas?
Alors, tout d'abord, on est tous capables d'avoir les effets positifs. Lui, c'est clair, c'est comme étudier un athlète, là, c'est impressionnant comment il arrive avec tous nos machines. On l'a mis dans l'IRM fonctionnel, on a fait des mesures de l'activité électrique, on a stimulé son cerveau. Et l'équipe était directement impressionnée par quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, c'est qu'il arrive à contrôler. Il arrive à changer les mesures, l'objectif de l'activité cérébrale. C'est ça qu'on a publié.
Ah oui.
Et donc, on est tous capables. On a même peut-être même la responsabilité de jouer un rôle plus actif là, quand il y a quelque chose qui nous arrive. Je le constate dans mon activité clinique. Les patients, parfois, ils veulent un quick fix, une solution rapide. Oui. Docteur, donnez-moi une pilule. Et qu'est-ce qu'on voit en France? Vous avez parlé de l'insomnie. Eh bien, on abuse de ces calmants. Et mon rôle, là, c'est d'essayer de diminuer et de parler de l'hygiène de vie. Et donc, oui, on peut prendre soin de nous, pas juste de notre corps, mais aussi de notre esprit et la méditation est une possibilité de le faire.
Alors, on n'aura certainement jamais le recul qu'a Mathieu Ricard sur ses émotions, mais si nous, quand même, à notre niveau, on veut prendre un peu de recul vis-à-vis de nos émotions à nous, je crois vous proposer de faire l'étoile de mer. Mais c'est quoi l'étoile de mer?
Ça lui plaît bien, Julia.
Ouais, j'allonge là. C'est quoi?
C'est un peu drôle. On peut le faire avec les enfants. Il y a plein d'exercices où on peut vivre la méditation. Je vous ai amené
du chocolat.
Des bonbons.
Ah, c'est des bonbons.
Des petits
chocolat. C'est quoi le rapport avec la méditation?
Eh bien, parce que justement, je vais vous en donner un et on va vraiment
juste un pas de Julie, attention,
l'apprécier. On va manger
en conscience
un petit bonbon en pleine conscience.
Et ça va m'empêcher de finir la boîte, vous pensez?
Oui. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On a la boîte, on a un sac de chips, là, et puis, ici...
Ils sont bons.
Ben, vous y allez vite, là, on apprécie. Qu'est-ce que j'ai en main?
Vous voulez dire, on commence par enlever l'emballage.
On va méditer sur le chocolat,
en fait. On le regarde. On peut sentir.
Il a l'air délicieux, le mien.
On peut sentir. On peut apprécier sa texture.
C'est déjà de la méditation, ce qu'on est en train de faire, là?
Oui, on va juste là... On va focaliser notre attention à nouveau à une chose, Attendez,
j'ai
Mélanie.
Croqué, mais j'ai pas mangé.
Très bien.
Vous avez vu, j'y vais lentement.
On va, là, c'est, on peut même y aller de manière très, très lente pour apprécier ce moment. Hein. Être là, être présent. Et,
Bah oui.
On laisse fondre et on profite.
Ah, c'est bien, ça fait du bien de profiter, Mélanie. Mais, peut-être
mais bon,
que, professeur Lorez, on va continuer à manger ce chocolat tranquillement, méditer. Mais surtout, vous ne bougez pas. On va encore détailler ensemble tous les bienfaits que l'on peut attendre de la pratique de la méditation et même techniquement, pour ceux désireux de se lancer, vous nous donnerez quelques conseils. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, je vous le rappelle, on vous donne la parole dans Bienfait pour vous. Vous pouvez nous poser vos questions au professeur Lorez, au 3921, notre répondeur, ou encore sur le compte Instagram de l'émission. A tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On découvre ensemble ce matin les bienfaits avérés et scientifiquement prouvés de la méditation. Et on en a besoin en ce moment, tout particulièrement. Alors pour nous guider, il est toujours en studio avec nous, le professeur Steven Lorez, grand neurologue et l'auteur du livre « Méditer avec Steven Lorez » chez Odile Jacob, qui sort aujourd'hui. Alors dans votre livre, il y a aussi donc des exercices de cohérence cardiaque. La méditation, c'est bon pour le cœur aussi. Expliquez-nous ce que c'est que le 4, 7, 8, s'il vous plaît.
Alors, là, on peut le faire ensemble aussi, mais le temps est limité. On va proposer au lecteur une série de types de méditation. Il y en a quelques-uns sur la respiration. Donc, on va inspirer, on va compter 4 secondes, on va garder 7 et puis expirer 8. Alors, certaines personnes, ils ont besoin vraiment de dire « on va faire comme ça ». Et puis d'autres... Ils n'aiment pas, là.
Les règles. Les...
Ouais. Et donc, c'est ça le défi. C'est vraiment trouver ben, qu'est-ce qui, en fonction de votre besoin en ce moment, vous fait du bien. Et donc, c'est un peu plus compliqué que d'avaler une pilule. Mais je pense que l'un n'exclut pas l'autre du tout. Et donc, ma mission, là, c'est de combiner la médecine dite classique avec tous ces autres...
Discipline,
hein, et ça fait partie de notre hygiène de vie.
Alors il y a un chapitre sur la course à pied méditative, on peut faire du sport et méditer en même temps apparemment.
Mais oui, vous grande sportive que vous êtes,
mais moi, hier encore, je marchais sur un tapis, je m'ennuyais, mais qu'est-ce que je me suis ennuyée, j'aurais pu méditer.
Oui.
J'ai regardé une série.
Oui, on peut regarder des séries, on peut aussi, et il ne faut pas nécessairement le faire pendant toute la balade, mais il y a des moments où on peut se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je vois là, vraiment? On apprécie les nuances de verre. Bon, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de feuilles.
Mais surtout dans ma chambre, il n'y en avait pas beaucoup. J'avais un mur blanc en face de moi. Qu'est-ce que j'en fais de ce mur?
N'importe quoi. Là, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Il y a du bleu, les nuances, il y a la lumière. Donc, on va orienter notre attention vers nos sens. Et donc, ça aussi, c'est une possibilité d'entraîner les réseaux neuronaux, là, important dans l'attention, qu'on va vraiment voir avec nos machines, et on a cette possibilité d'influencer l'activité et la connectivité cérébrale.
Vous parlez beaucoup dans le bouquin de pleine conscience, on a déjà entendu ce terme, hein, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, on vient de faire l'exercice, là, on a mangé un petit chocolat belge en pleine conscience ou pleine présence.
Donc, on ne divague pas avec la méditation, on est là et bien là, au contraire.
Oui,
hein.
C'est pas toujours évident. En fait, des études montrent que la moitié du temps, on est ailleurs. Hein. On pense à autre chose.
Mais ça, c'est pas de la méditation, c'est de la divagation.
Et là, ben, c'est pas nécessairement mauvais. Parfois, quand on veut être créatif, on a justement ces pensées qui vont vagabonder. Mais ça peut aussi nous distraire, nous empêcher d'être concentrés sur la tâche. Ou même quand on est avec les enfants. Moi, je suis pas toujours vraiment là avec eux. Je pense au boulot. Et donc, la pleine conscience, c'est être ici.
Au moment présent. C'est vrai, parfois nos enfants nous montrent un jouet ou un jeu qu'ils sont en train de faire. On fait « Ah, c'est très joli !» ou un dessin. Et en fait, on n'y est pas du tout, faut bien le dire. Il y a une question d'Amélie sur Instagram qui dit « J'aimerais commencer la méditation, c'est ma bonne résolution pour 2022. Est-ce que les applications sont utiles pour commencer, comme par exemple Petit Bambou ou Headspace ?» Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, formidable, c'est très très bien fait. Moi, je suis un fan de Petit Bambou. Je les ai presque tous essayés. Il y a toute une série de machines maintenant. Vous voyez, moi j'ai une bague qui mesure ma fréquence cardiaque, respiration, température.
Génial, je ne savais même pas qu'il y avait des bagues. Je connaissais les montres, mais pas les bagues.
Je ne l'ai pas avec moi, mais il y a comme un petit avocado là, qu'on tient en main. Et puis il va mesurer notre fréquence cardiaque. Ça s'appelle Moonbird. Et puis ça va devenir plus grand.
Donc
et
vous n'êtes pas un moine bouddhiste, hein, vous êtes hyper connecté.
Eh bien, oui, parce que j'aime bien. Ouais. Et puis j'ai des patients qui me disent, mais docteur, ça me rend nerveux. Et donc c'est ça le défi. Voilà, oui, les apps, c'est super. J'ai des patients qui ont trouvé leur truc avec ça. Et puis d'autres, c'est un livre, un cours. Ce que je prescris beaucoup aussi, c'est la mindfulness-based stress reduction. C'est la réduction du stress avec la pleine conscience, c'est un programme de 8 semaines. Et là, je sais que vous êtes en bonne main.
On va prendre une dernière question très pratique de Laura sur Facebook. Elle nous dit « J'ai du mal à me concentrer en télétravail. Je suis sans cesse attirée par mon frigo, une lessive à faire ou autre chose quand je suis chez moi. Comment la méditation pourrait m'aider à mieux me concentrer dans mon travail? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ?»
Eh bien, pourquoi pas essayer Petit Bambou, hein. Au début, c'est gratuit. Il y a toute une série d'exercices.
Il y a pas mal, vidéos. Des séances gratuites.
C'est vraiment bien fait. Il y a des petites vidéos sur Internet. Il y a des livres. Et puis, on essaye. Et on ne va pas se mettre la pression. Hein. Souvent, on me demande ben, qu'est-ce que je dois faire, combien de temps et quand est-ce que je vais avoir un effet là. Mais c'est un peu comme le sommeil. Si on le veut trop, eh bien, ça va être compliqué. Là. Dors. Sois relax. On accepte. Parfois, ben, j'ai des émotions. Oui, c'est pas toujours le soleil. Là. Parfois, il y a des nuages. Parfois, il y a des orages. Mais ça passe. Là, ça fait 25 ans que j'étudie le cerveau, l'esprit, les pensées, les perceptions, les émotions. J'en ai jamais vu une seule qui est là non-stop.
Oui.
Ça
c'est
va,
fluctuant.
Ça vient. Et donc, on peut apprendre à apprécier cela. Et puis à s'entraîner.
Eh bien, merci beaucoup, professeur Laurès, de nous avoir accompagnés ce matin pour cet éclairage passionnant, vraiment, sur les bienfaits réels et précis de la méditation. On avait déjà en tête qu'elle était bonne pour nous, mais désormais, on comprend mieux comment elle agit concrètement sur notre corps et aussi sur notre cerveau. Merci beaucoup.
Merci professeur. On va à présent changer de thématique. Quoi qu'on reste presque en méditation, puisqu'on va s'intéresser à présent au sommeil des enfants, des petits jusqu'aux plus grands. Quand ça ne va pas de ce côté-là, pour nous parents, c'est l'angoisse totale. Et d'ailleurs, peut-être que méditer pourrait nous aider un peu. On va voir ça en tout cas, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h30.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est donc le moment d'accueillir notre invité suivant sur ce dossier consacré au sommeil des plus jeunes. Bonjour docteur Arnaud Fersdorf.
Bonjour Mélanie, bonjour Julia.
Vous êtes pédiatre réanimateur et auteur de ce livre qui s'appelle « Votre enfant de 0 à 16 ans » aux éditions Attier Parents. Vous venez également de sortir cet autre livre « Sans activité pour préparer son enfant » chez le même éditeur.
Alors OCP, moi, oui.
Je suis sûre que parmi nos auditeurs, c'est certain, il y a des jeunes parents qui attendent vos conseils, mais qui attendent vos conseils comme si vous étiez le messie. Hein. Vous le savez, j'en suis sûre, car un bébé, voire un enfant de 2 ans qui ne fait pas ses nuits, c'est tout simplement l'enfer hein, pour les familles. D'abord, est-ce que c'est très fréquent, ces troubles du sommeil, ces bébés, ces enfants qui ne font pas leur nuit?
C'est énormément fréquent. C'est une des causes de consultation les plus répandues, en particulier en ce moment, lorsqu'il y a un effet Covid, angoisse générale et tout ça probablement. Mais j'ai envie de dire, je veux rassurer les parents. Il faut rappeler qu'un bébé, c'est les parents qui vont tout de suite au départ. Hein, quand bébé est là, ce n'est pas dans le mode d'emploi hein, que bébé va pleurer. Il n'a que ce moyen-là pour s'exprimer vers ses parents. Eh bien, je rappelle aux parents, c'est vous qui vous calez sur le rythme de votre bébé. Et ce n'est pas le contraire. Parfois, j'entends l'un ou l'autre parent qui dit « laisse-le pleurer, c'est des caprices ». Ça, ça n'existe pas chez les enfants.
Ça n'existe pas, ça n'existe plus, parce qu'avant, c'est ce qu'on disait. Ouais. Longtemps.
C'était un peu ce qu'on disait, c'était l'éducation d'antan qu'on avait. Moi-même, j'ai subi ça.
Moi, j'ai même fait ça à mon grand de 12 ans, et je l'ai laissé pleurer 20 minutes, je l'ai torturé, en fait.
Parce qu'on nous conseillait ça à l'époque.
Et oui, il faut vraiment respecter le rythme du sommeil de l'enfant. Je rappelle qu'un bébé a un rythme qui est ultradien, c'est-à-dire qu'il est rythmé, une tétée ou un biberon, je dors. Je mange, je dors. Il n'est pas rythmé encore en fonction de la mélatonine ou du soleil, etc.
Bien sûr. Docteur, on est d'accord que vous les voyez en consultation, hein, ces parents désespérés avec un enfant qui fait toujours passer nuit à 1 an, 2 ans. Et ce sont des conséquences qui sont vraiment pour toute la famille, hein, on est d'accord. Pas que pour le petit, parce que mal dormir, c'est pas très bon pour un enfant, mais c'est pas bon pour toute la cellule familiale. Hein.
C'est un cauchemar.
Pour le couple
j'ai
aussi.
J'ai envie de dire, je vois même des couples qui peuvent éclater à cause de ça. Le problème du sommeil, c'est que parfois les parents ne sont pas d'accord, ils n'ont pas la même attitude, et ils oublient une chose essentielle. Moi j'aimais bien ce qui était dit avant sur la méditation. Il faut s'écouter, et il faut écouter son enfant. Et on est trop dans des contraintes, dans des contrats d'objectifs, dans des to-do lists, etc., etc. Et on ne se rend pas compte qu'on a un petit bout qui est là, qui est en train de se construire, qui a un cerveau émotionnel, le cerveau reptilien, qui a un néocortex qui va se construire dans les mois, les années qui viendront. Laissons-lui le temps, écoutons-le.
Alors justement, je pense aux parents qui nous écoutent, ça veut dire quoi, lui laisser le temps? En gros, physiologiquement, un bébé est prêt à faire ses nuits au bout de combien de mois?
On va dire qu'un nourrisson va commencer à vraiment caler son rythme de sommeil en moyenne vers l'âge de 4 à 6 mois.
Bon, pas les miens.
Ça laisse un peu du temps pour avoir des nuits difficiles en tant que parent. On se relaye, on peut avoir des tours de garde. Tout dépend aussi si on fait du cododo ou pas. Le cododo,
c'est
très bien.
S'il y a de l'allaitement ou pas aussi. Hein.
S'il y a du l'allaitement ou pas.
Vous êtes favorable au cododo?
Ah oui, c'est très bien. Mais je suis favorable à condition qu'on ne le fasse pas pendant 6 mois ou un an.
C'est combien de
temps ?
Pourquoi ?
Parce que après on a du mal à dropper l'enfant et à le mettre quand la maman reprend le travail ou si le papa reprend le travail. Enfin, il peut y avoir des conditions un peu compliquées. Et il faut rappeler que bébé qui dort dans la chambre des parents, si la maman allaite, ça sent le lait.
Et oui.
Partout. C'est comme nous, si on rentre dans une pizzeria et qu'on s'installe, ça sent bon la pizza, on a faim, on s'installe et on ne vous passe pas commande, vous allez avoir des crocs. Et ben, le bébé, il vit avec les sens, avec l'odorat, le pot à pot, etc.
Et ça le rend fou.
Et en fin de cycle, il devient fou, il sent le lait de sa maman. Ah, s'il est dans sa chambre, c'est un peu plus facile et le papa peut intervenir.
Donc les mettre dans leur chambre, ça peut les aider vraiment
à
dormir.
Au bout de 3 mois, c'est pas mal de passer dans la chambre.
Mais un bébé,
peu à peu.
Par exemple, docteur, un bébé qui ne dormirait pas au bout d'un an, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une cause médicale?
Alors, bien entendu, le sommeil, le bébé qui crie, qui pleure, qui a des troubles du sommeil, c'est notre rôle de pédiatre, de médecin, et c'est pour ça qu'on les voit régulièrement, de faire en sorte qu'il n'y ait pas autre chose. Alors il y a des causes psychologiques, nombreuses, qui ont été abordées. Une séparation, un déménagement, un problème économique, le Covid, le ceci, le cela, enfin des sources, il y en a plein. Mais bien entendu, il faut que nous, pédiatres, nous allions voir s'il n'y a pas une intolérance au lait, une allergie aux protéines de lait de vache. Un reflux, éventuellement. J'en profite pour rappeler que les reflux sont souvent surdiagnostiqués. Je vois des parents qui arrivent, qui ont fait un diagnostic internet.
Oui,
et
oui.
Ils sont déjà sûrs que leur enfant a un RGO, le fameux RGO, qui mine les familles internes. Évidemment, c'est plus commode, on ne le voit pas. Donc, à nous de faire le bon diagnostic pour pas passer à côté de quelque chose.
Alors, docteur Fersdorf, on va se retrouver dans un court instant. On va continuer notre plongée dans les nuits difficiles de certains enfants et donc de leurs parents. Comment gérer notamment les terreurs nocturnes, hein, par exemple, les problèmes de pipi au lit. En appliquant les bons conseils que l'on va vous donner sur Europe 1, on peut s'en sortir et toute la famille peut retrouver les doux bras de Morphée. Donc restez avec nous.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour dans lequel on décortique les soucis de sommeil de nos enfants. On en parle avec un spécialiste, le docteur Arnaud Fersdorf, pédiatre et animateur à Strasbourg. Vous êtes également l'auteur des livres « Votre enfant de 0 à 16 ans et sans activité pour préparer nos enfants »
au CP
chez Atier Parents. Alors, parmi les soucis qui peuvent évidemment perturber les nuits de nos enfants, il y a les terreurs nocturnes. C'est quoi la différence entre les terreurs nocturnes et les cauchemars?
Alors la terreur nocturne, ça touche plutôt les petits enfants à partir de 3-4 ans. C'est un enfant, ça touche la période du sommeil profond ou paradoxal. Et c'est un enfant qui va être agité, qu'on va avoir du mal à calmer, qui part, il a les yeux effrayés. Il n'aura pas de souvenir de ça. Et puis tout d'un coup, il va se rendormir aussitôt et on passe à autre chose. Le cauchemar, ça intervient plus tard. C'est en général après 5-6 ans ou 4 ans, 5-6 ans. Ça intervient là aussi pendant la phase de sommeil paradoxal. Et c'est quelque chose dont l'enfant aura des souvenirs. C'est pas du tout pareil, c'est une parasomnie et c'est plutôt lié à un événement qu'il y a eu dans la journée ou la veille ou peut-être une semaine avant, un déménagement, des cris, des pleurs, un accident, une sirène de pompier, tout ce qu'on veut. Et tout d'un coup, il va y avoir un cauchemar. Et l'enfant, quand il se réveillera, parce qu'il se réveille lors du cauchemar, pourra avoir des souvenirs et pourra éventuellement en parler. Ce sont deux choses différentes,
et
pas tout à fait
le même âge. Et pourquoi les enfants font des terreurs nocturnes alors si ça n'est pas lié à un événement qu'ils ont vécu?
Alors la terreur nocturne, on pourrait faire une émission là-dessus, c'est un sujet passionnant. à pas confondre avec les réveils nocturnes, c'est autre chose. La terreur nocturne, ça intervient toutes les deux ou trois heures, tous les deux ou trois cycles de sommeil. 30% pratiquement des enfants font des terreurs nocturnes. En fait, on peut dire, pour faire simple, que le cerveau de l'enfant se construit. Il a énormément de choses qu'il est en train d'assimiler, d'intégrer à partir de l'âge de... Déjà quand il est beaucoup plus petit, la marche, la propreté, le langage, la connexion avec les autres, la socialisation, plein de choses. Il tombe, il apprend à pleurer moins, etc. Et toutes ces choses-là, il les accumule dans la journée, dans son cerveau émotionnel en quelque sorte. Et la nuit, il n'a plus son néocortex pour gérer tout ça. Ça va un peu descendre de son grenier à émotions. Et en fin de cycle de sommeil, toutes les 60 minutes, toutes les 80 minutes,
ça déborde,
eh bien, ça va déborder en quelque sorte. Et il va être réveillé par ça avec des cris.
L'image est très claire. Comment on réagit en tant que parent si ça arrive? Parce que c'est difficile de les calmer. Ils ne sont pas là, on a l'impression, quand ils vivent une terreur nocturne. Non,
alors là aussi, on pourrait faire une demi-émission là-dessus. Ça, c'est clair.
J'ai plein de pistes,
mais il y a des bouquins. J'en parle d'ailleurs dans l'un ou l'autre de mes livres. Le sujet, c'est qu'il faut être vigilant, laisser la porte ouverte, mettre une veilleuse dans le couloir, tout de suite aller voir l'enfant, ne pas le laisser pleurer en se disant c'est un caprice, ça va passer, parce que plus il va pleurer, plus il va perdre confiance. Par contre, il ne faut pas le réveiller. Il faut être tout de suite à côté de lui, il va sentir votre odeur, il va sentir votre présence. Éventuellement, si ça ne suffit pas, on met la main sur son ventre. Si ça ne suffit pas, on le caresse. Mais en tout dernier, on va le prendre dans ses bras. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on va le réveiller. Il aura peut-être un peu de mal à passer dans le cycle de sommeil suivant. Mais ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est lui donner à manger la nuit. Sinon, après, on tombe dans un autre cercle vicieux.
Alors justement, en parlant de cercle vicieux, est-ce qu'on pourrait revenir quelques secondes sur les erreurs du coucher que vous retrouvez le plus souvent chez les parents épuisés? C'est quoi les erreurs les plus communes?
Alors, vous l'avez dit vous-même, Julia, parents épuisés. Quand on est épuisé, on est prêt à tout. Mais souvent, on est complètement à côté de la plaque. Parce qu'on est épuisé, justement. Et en plus, on n'est souvent pas d'accord, les deux parents. Parce qu'on n'a pas la même opinion, on n'a pas le même ressenti, etc. Et puis, il faut reconnaître qu'un enfant se calme parfois plus facilement avec maman qu'avec papa, ou le contraire. Donc, tout ça, ça peut un peu... Voilà. Les choses à éviter, c'est de passer une heure à raconter des histoires qui vont trop stimuler l'enfant.
Le rituel du coucher, il est rapide.
Le rituel du coucher, on va passer du temps. On va mettre la pénombre dans la chambre quand on va l'emmener. On ne va pas lui dire c'est l'heure d'aller au lit. Si je vous dis à vous, adulte, souvenez-vous de cette parole qui est incrustée dans votre cerveau, dans notre cerveau.
Va au lit.
Du genre, va au lit.
Bah, j'ai plus envie d'y
c'est
aller.
C'est un stress horrible.
Mais je
pour
dis
nous
quoi
adultes.
Alors je dis
quel
quoi
que soit notre âge. On dit, tu m'invites dans ta chambre?
Ah oui, c'est intelligent.
Et un conseil que je donne aux parents, c'est de rendre la chambre de l'enfant conviviale dans la journée. Je n'ai pas le temps de développer ici. J'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps là-dessus, une vidéo là-dessus. C'est de passer du temps dans sa chambre dans la journée sans s'occuper de lui. On se met à terre, il joue, on est à côté. Du coup, il est détendu. Il ne sécrète pas de cortisol, il est tranquille. Et le soir, quand on va le coucher, on ne lui dit pas on va aller au lit. On refait la même chose, on se met cette fois-ci dans une pénombre, on se met à terre. On peut utiliser un matelas à terre de type Montessori, c'est très bien.
J'allais vous demander, il y en a qui n'ont plus de lit aujourd'hui,
c'est
des
très
enfants.
Bien,
ça,
c'est très bien ce genre
le
de matelas.
Le lit à barreaux, c'est pas bon?
Ah, le lit à barreaux, on peut commencer à s'en exempter assez tôt, finalement. C'est pas mal comme technique.
Ben, du coup, un an, par exemple, dès qu'il marche.
Oui, même avant, même avant le lit à barreaux, on peut prendre un matelas à terre, même chez un nouveau-né, pourquoi pas. C'est toute une théorie, ça marche bien, on sécurise un peu la chambre, c'est pas mal du tout. Et du coup, l'enfant s'endort, il ne sécrète pas de cortisol, il sent que le papa ou la maman sont à côté. Comme on a pris l'habitude de ne pas s'occuper constamment de lui, on prend une petite veilleuse, on lit un bouquin, il va s'endormir, il va fabriquer la mélatonine, il va bloquer son cortisol et il va rentrer apaisé dans le sommeil.
Ah, pas mal.
Mais on s'endort avant les bébés, nous, parfois on aussi, parce que ça a l'air
bébés,
tellement
voilà.
Apaisant ce
bah,
que vous décrivez. Je risque, risque de m'endormir par terre à côté du lit, moi.
On a une question, docteur. On a Samira sur Twitter qui évoque un autre problème, les problèmes de pipi au lit. Sa fille de 4 ans et demi n'est toujours pas propre la nuit et à la sieste. Est-ce que ça, c'est grave à 4 ans et demi?
Alors non, c'est pas grave. Il ne faut pas lui dire que c'est grave, parce que ça va devenir grave, du coup, dans son cerveau. Mais 4 ans et demi, un enfant a le droit encore de lâcher un peu, comme on dit, de ne pas encore maîtriser ses sphincters. Ça peut arriver. Là, je ne vais pas m'étendre parce que c'est un sujet complexe, mais si c'est la nuit, si c'est une énurésie primaire, c'est-à-dire que c'est un enfant qui n'a encore jamais eu cette acquisition des sphincters la nuit.
C'est pas une régression, quoi, en fait.
C'est pas une régression. Ouais. C'est différent si c'est secondaire, c'est-à-dire s'il était propre avant. Enfin, propre, on n'aime pas tellement ce mot-là. Mais voilà, on en parle avec les parents, on voit l'environnement, parce que très souvent, c'est d'origine psychologique. Et puis, on va mettre des rituels en place. On va arrêter de boire une heure avant d'aller au lit. On change le lit de place 90 degrés. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut
faire. Existe toujours, les petits soleils et les petits nuages à l'époque.
Oui, alors c'est pour responsabiliser l'enfant. Quand on commence à faire un peu un traitement, par exemple avec des médicaments pour traiter une énurésie, mais après l'âge de 6-7 ans, eh bien, on lui fait participer en dessinant un soleil le matin ou un nuage.
Quand la couche est propre, il n'y a pas de pipi au lit.
Mais
quoi,
sans
ça.
Mettre la pression, sans lui dire « Oh là là, il y a beaucoup de nuages là ». Là, on va le stresser et il va encore avoir plus de difficultés
c'est
à maîtriser ses sphincters.
C'est juste pour qu'il ait une vision d'ensemble, un peu de sa progression, en fait.
Voilà,
c'est ça,
une vision d'ensemble, c'est lui qui gère.
Une autonomie.
Et il ne faut pas être derrière lui en disant oh là là, oh là là.
Encore, il n'y a pas de commentaires.
On dit surtout pas de commentaires. C'est ce qui mine l'enfant, quel que soit son âge. Par contre, on lui dit bah, c'est top, c'est toi qui fais, et tu verras avec ton médecin. Ton pédiatre, ça le responsabilise, c'est mieux comme message.
Et donc Samira nous disait que sa fille n'était pas propre la nuit. Bon, on a compris qu'effectivement, en la responsabilisant à 4 ans et demi, c'est pas un drame, ça va arriver, bien sûr. Oui. Et elle dit aussi à la sieste, justement, puisqu'elle parle de la sieste, jusqu'à quel âge un enfant a vraiment besoin de faire la sieste? Alors l'école de la République nous dit qu'en gros, en moyenne section, c'est terminé, mais il y a des enfants qui dorment encore chez eux à 4 ans et demi.
Il y a des enfants qui ont besoin de sieste, c'est pour ça qu'il ne faut pas leur enlever du jour au lendemain, c'est pour ça qu'il y a des temps de repos à l'école. Alors plutôt qu'un moment de sieste, on parle de temps de repos et
temps
on sait
calme.
Bien, il y a tel et tel type d'enfant, on les met plutôt d'un côté et ils seront un peu, ils vont bouger mais on va leur demander d'être trop calme, et d'autres qui ont besoin de dormir. Et peu à peu, avec toutes les acquisitions qui se passent, le rythme de sommeil, l'accompagnement, la stimulation qu'il y a dans les acquisitions à l'école, ce temps de sieste va peu à peu disparaître vers 4 ans en moyenne. Et parfois, il peut y avoir un temps de sieste pendant le week-end, pourquoi pas.
Pour récupérer un petit peu ce qui manque de la semaine, ça on ne leur enlève pas. C'est important pour leur cerveau de faire cette sieste encore?
Alors oui, il y a des enfants, on n'est pas égaux par rapport au sommeil, on le sait. Et il y a ce qu'on appelle la dette de sommeil qui peut s'installer. Donc chaque enfant a un rythme de sommeil que les parents, que les figures d'attachement doivent vraiment apprendre à connaître et à respecter.
C'est très clair. Merci beaucoup Dr Fersdorf, je suis certaine que de nombreux parents vont tenter d'appliquer tous vos conseils, surtout pour les plus petits, dès ce soir, et vous seront extrêmement reconnaissants. Merci encore.
Oui, merci beaucoup docteur. Maintenant, nous allons lancer la partie tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord les prescriptions du côté de la mode de notre spécialiste Sophie Braffman. Quelles sont les grandes tendances vestimentaires qui se démarquent déjà pour 2022? Elle nous dira tout. Ensuite, on écoutera les conseils sportifs de la coach Anouk Garnier. Aujourd'hui, elle va nous aider à raviver la flamme, à retrouver toute notre énergie sportive un peu perdue pour certains depuis quelques mois. Et enfin, on va terminer avec Edouard Dutour qui a décidé, lui, ce midi, de nous parler du retour du couple et de ceux, justement, qui vont peut-être nous faire rêver cette année. Il y aura donc un peu d'amour dans l'air dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être feel good. Vous le savez, dans notre émission avec Julia Vignali, notre seul but c'est de prendre soin de vous jusqu'à midi et demi. Et à présent, on va lancer comme tous les jours à midi et deux minutes, on va lancer notre tour de table des tendances, ces bons plans, ces conseils à la mode, mais qu'on décrypte pour vous. Et donc on va démarrer par la mode, la vraie, par les fringues, ce qu'il faudra porter en 2022 pour être très très branché. Bonjour Sophie Braffman.
Bonjour Mélanie Gomez.
Alors, petit aperçu rapide en quelques mots de 2022 côté fringues.
Ah, sur les grandes tendances. Alors bon, évidemment, il va y avoir beaucoup de couleurs, mais en même temps moins de couleurs, en même temps de l'écologie, en même temps pas. Enfin, vous allez voir, il y a plein de choses, quoi. Ouais. C'est un peu dur de vous dire tout en une phrase.
D'accord. Ça va être le bazar. Ensuite, ce sera notre coach sportive de se mettre derrière le micro pour nous faire bouger. Bonjour Anouk Garnier.
Et bonjour Julia.
Alors, de quoi on va parler aujourd'hui?
Alors, on va parler d'énergie. Je vais vous apprendre en fait à vraiment vous booster et vous mettre un petit coup de pied aux fesses avant d'aller au sport.
Ah, pas mal.
Le dire avec le sourire. Hein. Moi, j'ai même pas peur.
On va voir ça.
À mon avis, elle donne des bons coups aux fesses.
Vous croyez? On verra. On terminera avec vous, Edouard Dutour. Bonjour Edouard.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Je crois que vous allez jouer un petit peu les romantiques dans votre chronique aujourd'hui, c'est ça?
Bah, il y aura du sport aussi, mais du sport en chambre. On va parler de couple, le retour de la valeur couple. Voilà, il fait froid, la rentrée est un peu difficile, on se cherche quelqu'un, ou alors si on a quelqu'un, on le soigne bien. Mais il y a des tendances, même dans l'amour.
Ah, génial, c'est un chouette programme. Merci Edouard, on vous retrouve dans quelques minutes pour jouer Cupidon, mais tout de suite, on va se rhabiller pour l'hiver ou même pour l'année dans Bien fait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Sophie Braffman, alors vous nous en avez présenté déjà en 2021 de belles choses, de belles pièces qu'il fallait absolument avoir l'an dernier. Enfin, si je me souviens bien, c'était surtout de belles pièces moches. C'était la mode du moche.
Exactement, je crois que vous retenez bien la leçon.
Mais ça y est, c'est fini, on passe à autre chose en 2022.
Oui,
et
là, du beau, là.
Donc, on a besoin d'avoir votre œil avisé pour savoir à quoi on va ressembler cette année. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir porter?
Alors, déjà, tout d'abord, le mois de janvier est un mois chargé. Vous n'êtes pas sans le savoir, puisqu'il y aura bientôt la haute couture du 24 au 27 janvier, puis la semaine de l'homme du 18 au 23. Je vous sens, mesdames, l'œil un peu aguicheur.
Ça sera la semaine prochaine, ça.
Voilà, oh là là, je suis un peu contente et je vous parlerai de tenues pour les hommes et notamment de lingerie. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir un petit voyage anticipé qui va vous faire grand bien. Oui, parce qu'on a envie de quitter la morosité, l'hiver, la campagne électorale, le Covid ou la grève. Bref, tout ça, c'est ennuyeux. Alors se pose évidemment la question cruciale de ce que nous allons porter cet été. Édouard, plutôt caleçon fleuri, veste en tweed ou maillot de corps en poil canin. Eh oui, ça existe.
Les trois.
Voilà, les trois. Parce que le poil canin se tricote maintenant. C'est un véritable sujet de JT. On aime la France des régions, on apprend plein de choses. Mais également, vous allez voir que cet été, nous allons reprendre, repriser, récupérer dans nos armoires. La tendance joue-la comme mamie n'a jamais été aussi présente. Enfin et surtout, quels seront les messages que nous allons envoyer grâce à nos tenues printanières et estivales? Car oui, les couleurs stimulent un dressing et affirment une personnalité. Je n'ai pas peur de le dire. Alors, Julia, Mélanie, serez-vous plutôt bleu marine qui donne bonne mine, façon Inès de la Fressange, la germano-pratine, ou imprimé léopard, très croisette, prince de l'amour sur la Côte d'Azur?
Je vais prendre bleu marine et on prendra léopard pour
léopard
vous.
Léopard, hein,
Julia. Je le sens bien, le léopard.
Je le sens bien, moi aussi. Alors, pour connaître ces couleurs et les couleurs notamment à porter pour le prochain printemps-été, j'ai interviewé Ariane Bigot, adjointe à la direction mode de Première Vision, un salon qui organise la rencontre entre fournisseurs et marques de mode.
Sur l'été 22, déjà, on a vu poindre, en termes de couleurs, deux grands courants. Un courant qui va mettre en avant la vivacité, donc l'intensité, le côté joyeux de la couleur, avec par exemple du orange, du violet, donc soit en color bloc uni, soit en fantaisie imprimée. Et puis, un grand courant autour du naturel, qui va s'exprimer aussi dans les matières, et donc des coloris autour de la naturalité, des beiges, des écrus, des matières végétales.
La naturalité, comme votre pull aujourd'hui, Julia.
Exactement, et vous êtes en violet.
Voilà, tout donc on est tout à fait dans les tendances. Alors l'écologie, l'âme de
nous,
fond de l'été.
Nous, on est en noir avec Anouk, ouais. C'est voilà. Intemporel. Ça.
Bon, c'est un bon basique, il n'y a rien à redire. Ou un petit cardigan, enfin voilà, on est dans l'air du temps. Donc on espère que l'écologie va perdurer, bien évidemment, au-delà de l'été. Et des couleurs très fortes avec lesquelles vous allez prendre une bonne dose de vitamine D et qui tournent dans les orangés, donc des couleurs chaudes. Anne-Étienne Reboul, présidente de l'agence de style Peclerc, insiste sur le côté très color block et notamment l'esprit dans lequel nous allons les porter, hybride et néo-couture.
Il y a aussi toute cette envie presque un peu électrique, qui est une manière d'hybrider un peu le côté néo-couture, athleisure, plus sport. Donc en termes de couleurs, on va avoir vraiment les roses, ça bon, bah, c'est Jacquemus qui continue, hein, les fuchsias, c'est très important, tous les bleus, alors que ça soit des bleus turquoise un peu électriques ou des bleus un peu clins, enfin il y a pas mal de bleus, et puis les verts.
Alors Sophie, il va falloir me décrypter un peu. Hybrider la néo-couture, c'est assez technique. Bon. Anouk, vous avez compris,
non,
vous
j'ai rien compris.
Hybrider la néo-couture, enfin.
Bon, alors oui, la fashion a un langage un peu fleuri, voire un peu technique, mais vous allez voir qu'en fait, des termes a priori un peu complexes, ce n'est à la portée de tous, c'est pas si compliqué que ça. On écoute à nouveau Anne.
Sur le côté un peu néo-couture, c'est courant, c'est un petit peu la couture portée au quotidien. Et donc, c'est une résultante de l'univers couture qui se désacralise grâce un peu à l'upcycling, au vintage, des pièces qu'on va aller chiner, des pièces assez fortes, assez uniques, qu'on va mixer avec des looks plutôt street, jean, basket. C'est ce qui va permettre un peu d'avoir ce vestiaire porté de jour comme de nuit.
Alors, je sens que ça parlait à Mélanie, à nous, que vous avez bien suivi l'idée ou pas?
Tout à fait.
J'ai compris chiner.
Alors,
j'ai
dit, on va chiner.
Basket. Voilà, donc vous allez un véritable mélange des gens et surtout de jour comme de nuit, vous allez briller l'été 2022 tel un papillon de lumière. Oh. Et ça, c'est magnifique quand même. Voilà.
J'avais longtemps qu'on l'avait pas entendu celle-là.
Ouais. Oui, puis personne ne l'entend d'ailleurs. Mais en fait, j'avais très envie de vous la faire écouter pour une raison très simple. C'est qu'on s'est moqué à l'époque d'elle lors de la Nouvelle Star. Cindy Sanders. Merci Julia, je vois que vous avez de bonnes références.
Moi, je l'aimais beaucoup.
Eh bien, Cindy Sanders, écoutez, fait un véritable carton en Allemagne. Elle est devenue mamie Jerry Mugler lors d'une comédie musicale. Donc, pour vous dire que tout est possible, on prend l'exemple de Cindy Sanders en 2022 et on s'aligne.
Vous êtes née en Meuse comme elle.
Oh oui, je suis meusienne. Voilà, j'embrasse tous les meusiens et les meusiennes.
Moi, je suis de Meurthe-et-Moselle.
Et Cindy, elle est meuselane.
les gens de l'Est.
Ah, bah c'est pour ça qu'ils sont sympas.
Ben oui,
ah, donc, rassurez-moi, vous n'êtes pas de l'Est.
Ben bah, si, en fait. Ah, je vais dire, je suis de Vesoul, quoi.
Mais
oh,
Dieu,
là, cette table est extraordinaire.
Est-ce qu'on peut arrêter cette musique?
Alors, oui, je sens que Papillon de Lumière touche à sa fin, malheureusement. Voilà. Alors, donc, vous allez pouvoir porter, comme on l'a entendu, des maillots orange vif fabriqués à partir de déchets plastiques récoltés dans les océans. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour la partie écologique. Mm-hmm. Avec pourquoi pas un jean délavé, un vieux Levi's récupéré et retaillé, assorti de sandales plateforme XXL ou de mules tressées qui vont être le must-have de la saison et disponibles partout. Et tout ça, n'oubliez pas de ressusciter des matières anciennes, comme on l'a vu, le lin, le coton lavé, la toile rustique et le chanvre, bien sûr, cette matière très noble. Je vois que vous l'aimez beaucoup.
J'adore le chanvre.
Mais oui, parce que vous pensez à Marie-Antoinette tout comme moi, puisqu'à la cour de Louis XIV et de Louis XVI, les vêtements étaient en chanvre. Encore faudra-t-il réindustrialiser le chanvre chez nous, en France.
Il y a du chanvre en France et il y a du lin. Il y a des filatures de lin qui sont en train de se réorganiser en Europe, parce qu'aujourd'hui, la majorité des filatures de lin était en Asie, notamment en Chine. Donc là, il y a une réorganisation autour de la filière lin et chanvre qui est en marche. Mais dans le poids global de production de matières premières, aujourd'hui, on est encore sur une majorité de coton et de polyester.
C'est ce que nous a expliqué donc Ariane Bigot du salon Première Vision. C'est une bonne nouvelle que le chanvre revienne en France, je trouve. On peut s'en réjouir, a priori. Voilà, et donc des matières plutôt nobles. Et comprenez bien que même dans des matières un peu poubelles qu'on aurait jetées, hein, notamment je pense aux déchets plastiques, eh bien on peut être très belle à l'été 2022.
Bien, merci beaucoup Sophie Braffman pour tous ces conseils. Maintenant, on a quelques idées pour faire évoluer notre dressing pour cette nouvelle année. En plus, ça tombe bien, les soldes ont démarré, c'est l'occasion. Allez, on va poursuivre dans ce qui nous fait du bien et ça va peut-être remuer un peu. Attention, avec la coach Anouk Garnier dans un instant. Elle a toujours la pêche et elle va nous aider à la retrouver. Si vous n'avez plus d'énergie ni le courage de vous bouger, en restant sur Europe 1, ça devrait changer. Et puis, il y aura aussi la chronique d'Edouard Dutour. Il va nous parler aujourd'hui du retour du couple. Alors, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais je sens en tout cas qu'on va parler d'amour. Alors, ne serait-ce que pour ça, restez avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30. Et notre séquence tendance continue toujours dans la joie et la bonne humeur. On a évoqué juste avant les fringues qui feront 2022. Mais alors justement, si on veut pouvoir les enfiler, ces fringues, il va falloir garder la ligne. Enfin, rester en tout cas un peu affûté au moins. Mais c'est l'hiver, on est crevé. Moi, je sais pas vous, mais j'ai plus d'énergie pour faire du sport. Ouais. C'est dur, hein, franchement.
Très dur.
Heureusement, Anouk Garnier arrive à la rescousse. Anouk, c'est à vous.
Alors oui, on est en hiver et c'est vrai qu'il y a moins de luminosité dehors. On est vraiment tous, même moi, je vous l'avoue, ici même.
Et pourtant, vous êtes une championne. Hein,
voilà, j'ai l'énergie qui est un petit peu en baisse. Mais c'est vrai que c'est le moment des bonnes résolutions. On se dit, bon, allez, on se met au sport cette année. Je me mets à la course à pied. J'entendais Edouard qui disait, j'ai eu du mal à aller courir ce matin. Mais il l'a fait quand même.
Il l'a fait quand même. C'est bien. Voilà. Ah, c'est bien.
Et en fait... Déjà, j'aimerais vous dire un truc, c'est n'attendez pas d'avoir envie, n'attendez pas d'avoir de l'énergie pour
parce
y aller.
Ça viendra jamais.
En fait, si vous attendez, je suis pas sûre que ça vienne. Ouais. Par contre, je vais vous donner aujourd'hui trois techniques pour créer de l'énergie, vraiment instantanément.
Génial, ça a l'air d'un tour de magie. Moi, j'adore. Ouais, Anouk, par quoi on commence? Allez, on y va.
Alors, on va commencer par le mouvement.
Ok.
Alors, parce que si vous êtes assis toute la journée au bureau, ça arrive, ou si vous faites des longs trajets en voiture et qu'après vous vous dites bon, je veux aller faire du sport, vous n'êtes pas du tout dans le bon état. On est d'accord, le bon état physique, même psychique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut se mettre en mouvement. Il faut bouger. Et vous savez quoi? Je vous sens un petit peu mou ce matin.
Ouais, voilà.
Je sens un petit peu. Donc, ce que vous allez faire, là, tout de suite, vous allez vous lever 5 fois de votre chaise.
Elle
vous levez, vous asseyez 5 fois.
La petite nouvelle.
Et c'est parti. 5, 1, 2.
On serre les fesses.
C'est pas trop. Vous pouvez serrer les fesses à fond. Vous pouvez aller un petit peu plus vite, s'il vous plaît.
Oh là là,
merci. Merci, voilà.
Moi, je l'ai très bien fait.
Voilà. Julia un peu faillasse.
Moi, c'est vachement bien. Regardez, je continue.
Elle en fait 10, Julia.
Oh là là, mais quelle faillotte, celle-là.
Alors, je sais pas, juste là, comme ça.
Vous avez vu, j'ai la performance discrète. J'ai rien dit.
J'ai rien dit. Je performe, mais je dis rien. Est-ce que vous ressentez une petite différence, là, déjà? Est-ce que vous dites, je suis essoufflée, je suis
un peu chaud. Moi, ma cuisse a chauffé.
En fait, c'est quoi? On stimule le système nerveux. Donc en fait, par le mouvement, vous allez entre guillemets réveiller votre cerveau et le reconnecter à votre corps. Donc voilà, ça c'est une des premières techniques que même moi j'utilise. Alors ça c'est un petit exemple qu'on a fait ici en studio, assis debout, mais vous pouvez faire de la danse, je sais pas, vous vous mettez
ça,
à danser.
Ça Julia, ça lui parle bien, elle aime bien danser.
Je sens que Julia aime bien. Voilà,
danser, pas de musique.
Et vous pouvez, si vous aimez bien la boxe.
Ah, ça y est, Julia,
voilà, en musique. Et voilà, ça fait bouger.
C'est vrai qu'elle a nommé une énergie cette Anouk.
Voilà, en deux secondes. Et donc... première vraiment technique, c'est de se mettre en mouvement.
Et debout, préférence.
Debout, vous bougez, vous mettez du dynamisme dans votre corps. La deuxième technique, c'est de contrôler un peu mieux sa pensée. C'est-à-dire que quand vous pensez « je dois aller au sport », vous pensez « ça va être difficile, ça va brûler, il faut que je me change, il fait froid dehors, nanana ». Si vous pensez à ça, forcément, vous n'irez jamais. Alors. Par contre, si vous vous dites « ah, je vais aller au sport, après je me sens bien le sport, après le
vrai,
sport, ouais, faut penser je à me l'après. Sens bien ». Après, ou alors je vais voir mes copains au sport, parce que des fois on y va à c'est plusieurs, vrai. Je vais rigoler. Il y a mon coach qui est hyper motivant, je ressors de ma
ou
séance.
Ou hyper mignon.
Voilà, ça peut être une motivation.
Ça peut être positif. Oui,
voilà. Donc vraiment, essayez de penser au côté positif du sport et au fait de pourquoi vous allez au sport à la base, qu'est-ce que vous cherchez dans ce truc-là.
Maigrir, se muscler, être en bonne santé, enfin chacun a l'objectif qu'il veut, mais c'est important.
Voilà, essayez de penser au côté positif.
On oublie le froid,
on switch un petit peu. Son cerveau en mode plutôt positif.
Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il en manque une, non, pour se
il
motiver?
Il en manque une.
C'est laquelle?
La musique. Alors, moi, c'est ma préférée.
On aime beaucoup
je
ça
crée
aussi.
Des automatismes d'inspiration, de motivation avec la musique. Quand j'ai pas envie, j'attends pas, mais j'écoute ça. Tu vois, comme ça. Eh ouais! Et là, la motivation
c'est un
petit rappel de, pour me dire je suis unstoppable, donc maintenant tu vas te bouger, tu vas aller faire ta séance.
C'est trop bien.
Et
ça.
La musique, je trouve que c'est un puissant levier
et on a
pour
tous
se motiver.
Cette musique, hein, ce
on
truc
a tous
là.
Cette musique, c'est quoi la vôtre, Mélanie?
Moi, ça va être plutôt ça, c'est ridicule, mais.
Ouais, mais ça, ça fait bouger.
Ouais, mais c'est stimulant, cela dit.
Voilà.
C'est Britney Spears, hein, voilà.
C'est pas mal. Et vous, c'est motivant. Julia, c'est quoi votre
moi,
musique?
Moi, c'est quand j'entends Rocky.
Mais ça, c'est la base. Et voilà.
Mais non, mais
et vous voyez ce qu'on est en train de faire? On est en train de mixer deux techniques. On est en train de mixer le mouvement,
c'est
parce
vrai,
que
hein.
la première qu'on a vue est la musique. Donc la musique, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant.
Vous avez raison, parce que c'est génial, je m'aperçois que je bouge mon corps.
C'est vrai,
elle a l'air excitée.
Julia, elle est au taquet, elle est prête.
Mais ça marche votre truc,
ça marche bien, ça marche bien. Vous avez les vidéos
Julia,
aussi, mais la musique,
je crois,
c'est top.
Là, vous transpirez, c'est ça que je vois, non?
Je transpire,
vous perlez, là, carrément.
Ça y est,
vous
pouvez
exagérer. Alors je vais vous donner, il y a d'autres musiques, parce qu'on a nos auditeurs justement sur Instagram qui nous ont donné leur avis, leurs chansons qui fonctionnent aussi pour se motiver. On a par exemple Chat DPLS, je ne sais pas, Call on Me.
Ça motive. Le cliché du fitness, mais ça motive.
Ça motive vachement, ça. On avait Eyes of Tiger comme vous.
Tout
ça motive, et donc on a.
Donc trouvez votre musique de motivation, et vous n'attendez pas de vous dire j'ai pas envie, vous mettez votre musique, et c'est parti.
Et on
ça
se
bouge.
Lève,
on
bouge,
et on va faire son sport.
Merci Anouk pour ce bon petit coup de pied aux fesses, et merci surtout pour votre énergie sportive. J'espère qu'elle est contagieuse, ne serait-ce qu'en vous écoutant. On verra ça. Moi, je me sens motivée là, mais j'espère que ce ne sera pas fini dans une demi-heure. Je vous appellerai. Sinon, je vous passerai un petit coup de fil pour un petit coup de pied supplémentaire. On va parler d'amour à présent avec notre cher Édouard Dutour. Franchement, on est en pleine forme, Édouard, là, pour vous écouter. On est au taquet. Il va falloir nous éclairer. Votre sujet du jour, c'est le retour du couple. Qu'est-ce que ça signifie, tout ça?
Alors, en gros, si vous avez bien suivi l'année dernière dans les médias et puis un petit peu dans l'air du temps, il y avait cette idée qu'il fallait un peu déconstruire la valeur couple pour retrouver de la liberté. On entendait ça avec des mots fous. Il fallait ne plus être hétéronormé. Il fallait être fluide. Il fallait être non exclusif. Bon, en gros, c'était des bonnes raisons pour se taper qui on voulait. Ce qui n'est pas forcément un problème, ou voire d'être seul. Aujourd'hui, on voit un retour du couple. Les temps sont durs, il fait froid, on est covidé, c'est pas super fastoche. Donc les gens se recentrent un peu sur cette valeur-là. Il y a des couples partout dans les chansons d'amour, au cinéma, etc. Et à Hollywood. Et c'est vrai que Hollywood, ça a l'air loin. Mais pourtant, nos amis les stars peuvent nous inspirer. Alors je vous propose une chronique pas bisexuelle, mais bicéphale. C'est qu'à la fois, on va passer en revue l'actualité sentimentale des stars. Et on va évidemment pouvoir s'en inspirer pour notre propre vie.
C'est interactif, votre truc là. Ça a l'air
interactif,
pas mal,
voilà. Ouais. C'est l'énergie, ça m'a boosté.
Ça va circuler. Alors concrètement, Edouard, vous pensez à quelle personnalité?
Alors moi, je pense déjà à une fille qui manque pas d'énergie, c'est Jennifer Lopez, et qui doit faire vachement de sport. Alors vous savez, elle a remis le couvert
avec Ben.
Depuis quelques temps avec Ben, avec l'acteur américain Ben Affleck. Alors il s'était follement aimé au temps de leur superbe.
Oui, je m'en rappelle. Je crois qu'il avait des petits problèmes de boisson.
Voilà.
Hein.
Et donc 20 ans après, ils ont mangé c'est pas mal. Hein. Ils ont pris quelques divorces, quelques cures de désintoxication, et ils se sont retrouvés. Et moi, ça me passionne.
Mais moi aussi, j'adore ces photos. Vous avez vu la photo, 20 ans d'écart sur le bateau.
20 ans d'écart,
là.
Ils sont tout aussi beaux et tout aussi heureux. Donc l'enseignement pour nous, si vous êtes un peu sur le bas-côté ces derniers temps, côté sentimental, n'hésitez pas à regarder dans le passé. Il y a peut-être un gars ou une fille, même un peu habillé
sur Facebook en général, c'est ça, il y a les ex.
Qui va pouvoir réchauffer le dîner, comme on dit. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Ouais. Vous pensez quand même à vos ex, il y en a peut-être un qui a finalement qui est disponible et pas si mal tourné.
Mais à part un ex, il n'y a pas une autre solution quand même?
Bah, il y a le petit jeune aussi. Alors là, il faut se tourner vers Angelina Jolie.
Ça, c'est pour vous, Julia.
Alors Angelina, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue accompagnée depuis son divorce avec Brad Pitt et ce procès interminable autour de la garde de leurs enfants. Bah, si, comme Angelina, vous avez une tripotée de mômes et vous prenez la tête avec votre ex, que c'est la guerre, bah, vous pouvez vous rattraper avec un petit gars prometteur, comme elle le fait avec le chanteur The Weeknd.
Mais non, c'est pas vrai.
Il est très joli. Aujourd'hui, tout le monde sait à peu près qui c'est.
Mais il est
d'ailleurs, il a beaucoup de succès à Hollywood auprès de plein de très jolies filles. Là, il a choisi une femme qui avait 15 ans de plus que lui. Il a bien raison. Il a 31 ans, elle a 46 ans. Donc en fait, on parle beaucoup du jeûne du mois de janvier. Ben, moi, je vous propose le petit jeûne mois de janvier. Voilà. Je ne sais pas si ça vous tente, les filles, mais c'est tendance.
Moi, je préfère les vieilles personnes. Non, ouais. Non, on est équipés avec Julia. Édouard, vous n'avez pas plus raisonnable comme option quand même?
Ah bah, y a toujours le bon vieux collègue de boulot. Alors, je ne dis pas ça pour moi.
Hein, ah, le coquin, vous êtes seul là.
Ce n'est pas une proposition, mais je pense à Zendaya et Tom Holland. Alors, c'est qui? Si vous vivez sur notre planète, vous avez oublié, vous n'avez pas su exactement qui c'était. Mais c'est très simple, ce sont les deux héros du dernier Spider-Man. C'est un immense succès dans le monde entier. Donc, en gros, pour eux, le plateau de cinéma, c'est leur machine à café. Hein. Et puis, à force de se tourner autour et de s'offrir des allongés, eh bien, ils ont couché. Voilà, vous êtes allongé, couché, ça vous a... Non,
d'accord,
en
d'accord,
tout cas,
pas mal.
Jouer, je sais pas si c'est hot à Europe 1.
Je sais pas, Mélanie, vous êtes là depuis plus longtemps que moi.
Non, mais moi, j'ai trouvé mon bonheur à l'extérieur.
Non, mais comme il y a des histoires à Europe
Il y en a toujours partout.
C'est pas évident, boulot, en même temps.
Justement,
elle dit que c'est pas évident, parce que pour ceux, Edouard, qui ont des principes, comme Sophie Braffman, nos job in job, ils font comment?
Pour ceux qui ont des principes, je vous propose quelque chose d'assez efficace, de prendre un coup double. Par exemple, la chanteuse Adèle, elle vit une histoire avec un agent sportif. Donc en même temps, il peut la conseiller sur sa carrière. Et en même temps, il peut faire coach de sport. Donc
ça, c'est vachement bien.
Essayez de trouver,
vous allez recevoir des lettres d'amour.
Essayez de trouver quelqu'un d'utile.
C'est win-win.
Futile, c'est bien, mais utile aussi.
C'est vrai qu'avoir une ado garnie à la maison, je pense que ça doit motiver déjà.
Moi, vous savez, moi, mon rêve, ça aurait été d'avoir un mari coiffeur, parce que j'adore les brushings.
Moi, j'aime bien le banquier plombier. Il y a aussi le chauffeur pâtissier ou le dentiste garagiste.
Et il n'est pas évident à trouver, celui-là. Vous dérivez, là. Vous dérivez, je crois. Enfin, pour vous, Edouard, le top du top niveau amour en 2022, c'est quoi?
Bah, comme d'habitude, ça se passe chez les Kardashian. Comme vous le savez, Kim Kardashian et Kanye West se sont séparés, évidemment. Donc, monsieur serait à la colle aujourd'hui avec une spécialiste du SM.
Mais non.
Et madame serait avec un garçon qui s'appelle Pete Davidson, qui est un comique acteur américain, qui aurait... la Big Dick Énergie. Alors, je vais essayer de ne pas dire de gros mots.
Ouais, on va pas traduire littéralement. Énergie,
littéralement, ce serait l'énergie du gros zizi. Mais en fait, c'est pas ça.
Dingue.
Ça qualifie en fait une sorte de personnalité assez sympathique qui désigne un type qui a une grande confiance en lui, mais sans autosuffisance.
C'est presque assez sympathique, en fait.
Ben voilà, ça, c'est sympathique. Ça, je vous conseille ça pour le combo magique. Un gars qui a la Big Dick Énergie.
La Big Dick Énergie, c'est pas
ça. Je pensais jamais que j'allais dire ça à la radio un jour.
Mais c'est pas évident. Voilà. Moi, j'ai vu dans un magazine People Kanye West avec deux jeunes femmes.
Mais non.
Ah, si.
C'est pas ça dans l'air du temps.
Ça, c'est une autre option. Si, je sais pas si ça vous tente.
L'amour multiple. On en a parlé une autre fois. Les filles, que ce soit Anouk ou Sophie, dans les couples qui nous ont été présentés, version 2022, lequel est le plus inspirant?
Oh, ben, je crois que la fin a été assez inspirante, hein, Edouard.
Vous êtes Big Dick Énergie, Anouk.
Moi, j'aimais bien le couple Spider-Man.
Ça m'étonne pas.
Le travail. Rêver, super héros,
de boulot mignon.
Moi, c'est Gillo et Ben.
Moi aussi,
j'aimerais tellement avoir le fessier de Gillo. Merci beaucoup, Edouard, pour toutes ces infos de la plus haute importance et honnêtement,
fondamentale.
Fondamentale, c'est qu'à le dire. Je suis ravie qu'on ait terminé l'émission sur cette touche sentimentale. Ça fait du bien. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Cette émission touche à sa fin, mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quel sera notre premier thème du jour?
Alors, Julia, demain, on va parler de travail et surtout de souffrance au travail, puisqu'on va s'intéresser au burn-out. On vous expliquera notamment ce qui distingue une fatigue passagère d'un burn-out, les signes avant-coureurs qui doivent vous alerter. Et bien sûr, on verra comment le traiter, le prendre en charge.
Et bien, d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres. Yeah.